Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Philippe Aguillon, professeur au Collège de France et membre du Cercle des économistes qui a coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Co-auteur d'Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champ Actuel et Stéphane Van Uffel, cofondateur de netinvestissement.fr. Je reprends juste les arguments de Christian hier d'Alternatives économiques. Bon, qui, vous n'êtes pas surpris, défend l'idée qu'on augmente le SMIC. Alors, il était quand même d'accord pour dire que plus 10, plus 12 ou 14% d'un coup, c'est peut-être un peu violent. Voilà. Mais il nous dit que sur l'emploi, les dernières études démentent l'idée qu'il y aurait des pertes d'emploi massives. C'est, dit-il, soit très faible, soit neutre. Après, sur le coût du travail, le grand argument qu'il développait était de dire que l'essentiel de la facture, en fait, reposerait à la fin sur l'État. Et pas sur les entreprises.
Pourquoi ?
Ce qui a été démenti. Oui. Mais il part du principe qu'on va considérablement alléger les baisses de cotisations en augmentant le SMIC, et que donc la facture des allègements de cotisations, c'est une facture globale, publique, collective, et c'est pas une facture qui repose sur les entreprises. Et qu'en fait, son idée était de dire que l'effet baisse de cotisations l'emporte à la fin sur l'effet destruction d'emplois, et qu'on a finalement un coût du travail moyen qui est plutôt baissier, disait-il. Et après, sur l'effet d'entraînement sur les autres salaires, là, effectivement, il y a des divisions entre les économistes. Je ne sais pas si vous achetez l'argumentaire. Eric, vous achetez l'argumentaire ?
Oui, j'achète l'argumentaire, parce que quand même, il repose sur ce qu'on dit à l'OFCE. C'est-à-dire qu'il faut, effectivement voir tout cela. C'est-à-dire que quand vous prenez que la hausse du SMIC, en tant que tel, vous voyez, le problème du SMIC, c'est un salaire, et le salaire, c'est à la fois une notion d'offre et une notion de demande. Et donc, quand vous augmentez le SMIC, vous faites un choc d'offre négatif et vous faites un choc de demande positif. Et donc, il faut tout analyser. Donc, le choc d'offre.
C'est ce que vous venez de dire.
Hein. Ben oui.
Mais la demande, c'est aussi beaucoup de la demande sur les biens étrangers.
Attends,
très bien, en 81, on a beaucoup augmenté les salaires, et puis ça a creusé le déficit commercial.
Je vais jusqu'au bout, et après, tu verras. Bien entendu que nos modèles sont en économie ouverte. Mais je répondrai à cela. Donc, il y a d'abord le choc d'offres négatif. Si tu regardes que le choc d'offres négatif, nous, les 12%, ça fait 350 000 destructions d'emplois. Donc, OK, on a et on retrouve les résultats de tout le monde. Sauf que, d'accord, ce choc d'offres n'est pas aussi négatif. Mais là, il faut faire une hypothèse. C'est quelle est la diffusion du SMIC sur les autres salaires.
Ah.
Eh bien, c'est ça. Mais oui, mais sauf que le SMIC, là, aujourd'hui, quand il augmente, les autres salaires n'augmentent pas à due proportion. Et donc, les salaires un peu au-dessus, en proportion du SMIC, baisse. C'est le tassement évoqué par Philippe tout à l'heure.
C'est une évidence.
C'est une évidence. Bon. Sauf que, puisque notre système d'allègement de cotisation sociale est assis sur la proportion du SMIC, eh ben, quand vous passez de 1,3 SMIC à 1,2 SMIC, eh ben, votre employeur touche plus d'allègement de cotisation.
C'est l'argument
hier, oui. Ben oui. Et donc, du coup, vous avez beaucoup. Et donc, le coût, le choc d'offre négatif, il disparaît. D'accord, il disparaît s'il n'y a pas de diffusion du SMIC sur les autres salaires. Mais attention,
Vite.
C'est macroéconomique. Hein, oui. Macroéconomique. Après, si vous êtes une entreprise où vous payez tout le monde au SMIC, là, vous prenez les 12%. Ça, il n'y a pas de machin. Mais si vous êtes une entreprise moyenne, d'accord, vous avez des personnes au SMIC, mais que vous avez du coup que 17% de personnes au SMIC, d'accord, qui est la moyenne, et vous avez une distribution, eh ben, ça peut être à coût quasiment nul, mais attention, ça veut dire que le coût, il est porté par quelqu'un d'autre, c'est les finances publiques. Voilà. Et donc là, ça coûte et ça fait du déficit. Voilà. Et donc, d'accord, donc ça peut, le choc d'offre, il peut être nul, mais dans ces cas-là, on en vient à un choc de demande pure, financé par du déficit. Voilà, donc c'est. Ah, voilà. Et là, vous vous posez la question, est-ce que c'est le bon outil, d'accord, de financer un choc de demande par du déficit ciblé sur le salaire minimum. Donc, mais c'est ça les questions qu'on doit se poser. Alors ensuite, il y a des effets de demande, d'accord ? Mais alors, là, on est d'accord. Un choc de demande, quand il est isolé, il n'est pas très bon, d'accord ? Il n'est pas très bon. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire un choc de demande de façon synchronisée avec vos pays européens. Si tous les pays européens, et c'est un peu la critique qu'on faisait au candidat NFP, c'est-à-dire faire une relance keynésienne quand tous les autres pays font de l'austérité, là, on sait qu'il y a une grande partie qui part à l'étranger. Ça, c'est évident. Alors, pas autant qu'on le dit tout de même. Il faut quand même être raisonnable. C'est-à-dire que, vous voyez, dans la consommation, D'accord, mais parce que c'est un choc permanent avec le SMIC, hein. C'est-à-dire vous augmentez le SMIC tout le temps. C'est pas vous donnez pas 200 euros à quelqu'un en une fois.
Ah, oui,
et donc quand vous faites cela, et ben globalement, quand vous regardez la consommation des ménages, la part des produits importés, elle est quand même relativement faible. Elle est à peu près de 12,5%. C'est-à-dire quand vous donnez 100 euros, il n'y en a que 12,5% qui part en importation. Le reste, vous consommez des services. Et les services, c'est fait à l'intérieur. Donc attention, ça fait quand même de la relance en interne, mais pas de façon optimale. Et donc là, la question, c'est est-ce qu'on doit financer par du déficit une hausse du SMIC ? Bon, ça c'est la bonne question.
Oui, c'est très bien posé. Le débat
mais du coup, on voit bien que ça peut effectivement avoir des effets relativement neutres. Attends, et après je laisse la parole. Après, puisque c'est nous qui faisons ce calcul, il faut quand même donner la grande limite à nos calculs, c'est que nos modèles sont linéaires. C'est-à-dire que quand vous faites un choc de 1% ou quand vous faites un choc de 14%, le choc de 14% est 14 fois plus important qu'un choc de 1%. La réalité, à mon avis, c'est pas celle-ci. C'est-à-dire que quand vous faites un choc de 14% d'un coup, il est beaucoup plus fort que 14 fois le 1%. Et donc, attention, c'est ça qui va. C'est la grosse critique qu'on peut faire. Pourquoi pas un coup de pouce au SMIC, mais pas de 14%, donc, pas de 12%.
Prime d'activité.
Moi, je ne vois pas qu'est-ce qui est mauvais dans la prime d'activité. Je vois pourquoi être contre l'augmentation de la prime d'activité, qui n'a pas la même conséquence de
elle n'ouvre pas de droits sociaux.
Ben elle n'ouvre pas de droits sociaux et quand même, c'est important.
Bon.
C'est important.
Oui.
C'est-à-dire que tu contournes le modèle social. Là.
Juste réaction, et puis après, je vais aller justement sur.
Je crois aussi, si vous comme moi, le débat, c'est qu'il y a, il y a différents outils pour lutter contre la pauvreté. Un RSA amélioré, etc. Il y a, au niveau, pour les gens qui travaillent, la prime d'activité et d'autres. Alors, on peut regarder pour les droits sociaux comment les étendre, pas séparément. Mais je crois aussi que l'important, on disait aussi le taux d'emploi. Mais en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est il faut des emplois productifs et donc la formation. Et je crois que la clé, c'est d'innover et de former les gens à l'innovation. Moi, je crois que c'est vraiment ça. Ce qui va vraiment pousser le pouvoir d'achat,
c'est
l'exemple de l'Europe du Nord. J'innove et en même temps j'éduque et je forme les gens aux nouvelles technologies. Ça, c'est vraiment le moteur le plus sûr d'augmentation à long terme du pouvoir d'achat. Après, il y a le court terme et il y a plein de solutions possibles. Mais si on veut une stratégie de long terme d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est ça la clé. Il n'y a pas d'autre clé que ça. C'est augmenter notre productivité grâce au progrès technique et à l'innovation et former les gens. En Allemagne, par exemple, ils ont ce qu'on appelle des semi-skilled workers, c'est des travailleurs qualifiés parce qu'ils ont un enchevêtrement entre l'école et l'entreprise depuis le début. Ils forment des gens qui sont entreprise-école. Ça marche très très bien. Et c'est ça qui aussi leur a permis de ne pas désindustrialiser autant que nous. Et je crois que la clé, c'est ces choses-là et le progrès technique et tout ce qu'on fait dans la formation, dans l'organisation de l'école pour et contre la désindustrialisation. Ça, c'est à mon avis des vrais moteurs d'augmentation du pouvoir d'achat. Après, le reste, il y a le court terme et il y a différentes choses qui peuvent être considérées. Mais je crois qu'il faut maintenant avoir des visions de long terme.
Ce qui me fascine, c'est que bon, vous connaissez bien cette émission. Et il arrive qu'il y ait des économistes qui soient d'obédience très opposée. S'il y a un truc qui met tout le monde d'accord, c'est que le moteur d'activité, ça s'appelle les facteurs de production et la productivité.
Oui, mais c'était pas
un économiste.
Oui, mais à une époque, on pensait que c'était la demande.
Oui.
Il y a eu une évolution. Ben, même l'OFCE, qui était très keynésienne, elle est devenue keynésienne, schumpeterienne quand même beaucoup plus. Hein. Sens que la culture a quand même. Je trouve que c'est une évolution très intéressante.
Je fais ce métier depuis suffisamment longtemps pour confirmer qu'effectivement l'OFCE 2024 n'est pas l'OFCE 1998.
Bon, alors c'est vrai. Oui, c'est vrai. Attention, mais je sais pas de qui on parle. Mais quand vous prenez Fitoussi, excusez-moi,
mais c'est un très grand économiste.
Eh ben oui, et il connaissait un peu tout cela et il rappelait quand même des évidences qui étaient extrêmement importantes. Donc je pense qu'on peut pas non plus balayer toute la partie fitoussienne de l'OSA.
Ah non, mais je balaye pas. Stéphane Van Uffel, SMIC 1600, ISF avec outils de travail, abrogation de la réforme des retraites, tranche d'hier à 90%.
Donc sur le SMIC deux secondes, si vous voulez bien. Moi j'ai un vrai sujet, parce que c'est magnifique d'annoncer comme ça 200 euros net. Pour tout le monde, et tant mieux pour les gens qui sont au SMIC. Mais
tant pis pour ceux qui n'auront plus de boulot parce qu'ils ne sont pas assez.
Alors d'abord, la question, c'est celui qui est déjà au SMIC aujourd'hui, il devient quoi ? Celui qui a 1007 demain, il devient quoi ? Celui qui a 1008, il devient quoi ?
Celui qui a 1006, il devient SMICard.
Voilà.
Aujourd'hui.
Est-ce que quelqu'un Je ne vais pas m'énerver. Est-ce que quelqu'un de la France insoumise, parce que ça vient de la France insoumise,
oui, c'est
est
NFP,
donc proche
oui.
des gens les plus pauvres. Si on les écoute, nous sommes des grands méchants loups, eux, non. Bon, bah, ils n'ont pas réfléchi que toute une frange de gens qui s'étaient sortis de la smicardisation
vont y retomber.
Ouais. Et l'impact psychologique ça fait quoi? Bah, ces gens-là, ils votaient de ce côté et ils vont faire quoi?
Voilà.
Ils vont aller de l'autre côté. C'est, ce genre de choses, déjà, me paraît aberrant, même de rentrer dans la démonstration
que
économique.
Avec parce que d'activité.
La démonstration économique, Nicolas, ça, c'est très rapide. C'est, je trouve que c'est assez réduit. Même, Eric l'explique, vous savez très bien, toujours très, très bien, avec 1,2 SMIC au lieu d'1,3. Donc, il y aura des exonérations de charges. Très bien. Donnons-nous rendez-vous dans 6 mois, 1 an, si ça, ça passe. Il y a des choses qui n'ont pas du tout été réfléchies dans le ruissellement. D'augmenter un seuil minimum. Tu augmentes un seuil minimum, ça veut dire que tu tires quelque part, non pas tout vers le haut, comme tu le crois, ou comme ces gens derrière toi, derrière vous, pardon, Nicolas, le pensent, mais tu vas voir que ça va resserrer les tranches, parce qu'en fait, les entreprises n'ont pas les moyens actuellement de faire un étirement vers le haut qui me semblerait à moi très logique. On augmente finalement tout le monde au prorata de leurs moyens. Et j'ai très très peur sur cette histoire du SMIC, parce que je pense que ceux à la fin qui vont se faire avoir, pas forcément ceux qui étaient vraiment au SMIC, qui étaient pas loin du seuil de pauvreté, mais alors ceux qui commençaient déjà un peu à s'en sortir, je reparle là-dessus à chaque fois, eux aussi vont recommencer à avoir l'impression d'être...
Et moi, j'ai une autre question que je me posais, je ne sais pas si vous avez... Mais quel est l'employeur qui va embaucher quelqu'un qui est totalement non qualifié avec un salaire minimum pareil?
Bon, alors ça, non, on peut en discuter. Non,
mais je ne sais pas.
Si c'est la norme.
On a une idée, Eric, de ce qui peut se passer? Parce que quand on n'a aucune qualification...
Mais Nicolas, il le fera.
Il le fera quoi?
Ça dépendra de ce qu'il fait, de son entreprise. Mais il va le faire. Et si, parce que ce sera souvent le cas, de l'industrie, des produits manufacturiers, ça va se répercuter où, ce coût de travail supplémentaire de nos amis d'extrême
gauche? Dans les prix.
Dans les prix.
Mais oui.
Dans les prix de consommation, que paye qui? Bah, les gens qui ont pas forcément... Moi, ça ne changera rien pour mon pouvoir d'achat. Pour la personne qui est contente d'être augmentée, qui va se rendre compte qu'en fait, les prix ont augmenté à cause de ça. C'est tout le sujet de la notion que... Et là, je suis très impartial. Que ces deux extrêmes-là, pour moi, ça nage dans la semoule fort. Choses, vous vous rendez compte, moi, je suis juste chef d'entreprise, je ne suis pas un grand économiste, etc. Des réflexes de base, vous faites le calcul deux secondes. C'est comme quand, à l'époque, des pneus Continental, j'avais déjà raconté cette anecdote, les mecs voyaient leur usine fermée et être délocalisée, ils gueulaient. Le journaliste interroge un des syndicalistes. Le mec a des pneus Bridgestone. Pourquoi? Parce qu'il dit, le pneu Continental est trop cher, je peux pas me le payer. Donc, il comprend, à ce moment-là, devant la caméra, qu'en fait, il gueule sur un prix qui est dû au coût du travail de l'usine en France. Et donc, le serpent s'est mordu la queue. Il part. Et lui, il est obligé d'acheter japonais. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans ces petites choses qui ne sont pas envisagées à l'avance quand on balance des infos comme ça. Je trouve que c'est un peu dommage et que ça
en fait, si vous regardez le programme de la France, le programme du nouveau Front Populaire, il n'y a rien sur la productivité, il n'y a rien sur l'offre, quoi. Ils ont aucune idée de ce que c'est que l'économie de l'offre.
C'est la grande critique de Patrick Artus.
Ils n'y comprennent rien, quoi.
Non, ils iront chercher l'argent là où il est.
Donc, Et on revient à l'idée aussi, c'est sur les impôts, c'est la même chose.
Mais je vais y revenir.
On va peut-être y venir.
Tout de suite.
C'est-à-dire qu'ils ne voient jamais, par exemple. Moi, je suis pas, je l'ai dit, j'ai écrit plus, là, j'ai fait des interviews dans différents journaux récemment. Je pense que c'est une erreur de faire de la non-augmentation d'impôts un tabou. Donc, je suis d'accord qu'il faut considérer que peut-être certaines taxes doivent être augmentées ou revues. Donc, je n'ai aucun tabou là-dessus. J'ai jamais été partisan du tabou Bruno Le Maire, aucune augmentation d'impôts. Donc, je suis très flexible. Il y a des choses qu'on peut changer et améliorer. On pourra en parler tout à l'heure. Mais on a besoin de l'impôt. L'impôt est redistributif, l'impôt finance des investissements. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui ne croit pas dans l'impôt. L'impôt est quelque chose de très important. Et on a un pays qui imposons beaucoup en France. Et c'est important de le faire. Donc je ne suis pas du tout néolibéral, pas d'impôt, etc. Mais trop d'impôts tue l'impôt. On sait que quand il y a eu les réformes de 2017 en France, les réformes fiscales, les revenus fiscaux ont augmenté. Les revenus fiscaux ont augmenté. Ça veut dire il y a une courbe qui s'appelle la courbe de Laffer, L-A-2-F-E-R. D'accord? Cette courbe dit que si, partant de pas d'impôt, si j'augmente les taux d'imposition, évidemment, là, les revenus fiscaux vont augmenter, mais il arrive un moment où les revenus fiscaux vont se mettre à baisser parce que trop d'impôts va décourager. Les gens voudront plus faire, ça va décourager l'entreprise, le travail, l'effort, et puis il y a des contribuables qui partiront ailleurs. Donc, si vous voulez, et donc, et ce qui est intéressant, c'est que certaines mesures, comme par exemple des taux d'imposition à 90%, ça, c'est clairement du taux négatif. Et il y a des gens qui ont inspiré le programme du Nouveau Populisme. Je n'avais pas envie de taper sur le programme du Nouveau Populisme, qui ont écrit dans certains ouvrages, Zucman Saez, par exemple, que c'était pas du tout un problème qu'on soit dans la partie décroissante de la courbe de l'affaire. Si c'était pour plus de justice, on est prêt à restreindre le gâteau. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pour un socialisme de production. Je pense qu'il faut produire et redistribuer. Je ne suis pas pour sacrifier la production. Voilà, c'est là ma grande différence. Je pense qu'il faut produire et redistribuer pour redistribuer mieux. Et il y en a d'autres qui pensent qu'il faut certaines fois produire moins pour redistribuer mieux. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est vraiment ma ligne de partage.
Trop d'impôts tue l'impôt, les hauts taux tuent les taux, voilà. Ou alors les hauts taux tuent l'assiette. Enfin, vous le dites comme vous voulez. Je sais que vous êtes moyennement client, mais moi j'ai un chiffre.
Pourquoi je suis pas moyennement client.
Un chiffre et vous réagissez, Eric. Le taux, bon, il y a eu le chiffre OCDE sur le taux d'IS mondial, il a arrêté de baisser, on tourne vers les 21. Nous, on est passé de 33 à 25, la recette sur la période, elle est passée de 35 milliards à 55 milliards. On a baissé le taux et augmenté la recette.
Oui, mais alors, attention, mais pas en 2023. Non, mais il faut quand même faire attention. Mais moi, je suis d'accord sur d'un point de vue théorique, la courbe de l'affaire, elle doit exister. Quel est le taux à partir de quel on est dans la phase descendante? Je n'en sais rien, mais c'est vrai que quand on y est, il faut pas y être. Ça, on peut être d'accord. Dire que c'est bien d'y être, ça, je suis d'accord avec Philippe. En revanche, aujourd'hui, dire, vous voyez, on a baissé les taux d'IS et regardez, on a eu plus de recettes, je me dis attention. Oui, c'est ce qui a expliqué le dérapage du déficit en 2023, la mauvaise surprise. C'est-à-dire que globalement, c'est ce qu'on appelle les élasticités. Mais attention, c'est TVS. C'est-à-dire qu'il y a des élasticités.
TVA aussi, hein.
Quoi?
IS TVA. Hein.
Oui, d'accord. Mais, oui, et attention pour 2024. C'est-à-dire qu'il y avait des élasticités des recettes au PIB qui étaient, normalement, elles sont unitaires. Quand le PIB augmente de 1, les recettes augmentent de 1. En moyenne, c'est toujours unitaire. Et là, pendant 2-3 ans, on est passé à des élasticités au-dessus de 1. D'accord ? Et même, on est monté à 1,6. Et là, on disait, c'est la courbe de l'affaire. C'est la courbe de l'affaire. Quand le PIB augmente, quand on baisse les taux, vous voyez, même à PIB donné, on a des élasticités plus importantes. Et là, ce 1,6, en 2023, il est passé à 0,5. 0,5. Donc là, il n'y a personne qui a dit « Attention, peut-être qu'on n'est pas dans la courbe de l'affaire. » Là, comment on explique cela? Et vous voyez, on avait fait nos prévisions avec maintenant des élasticités qui sont plus élevées que le PIB. Et ben, c'est comme ça qu'on fait des grosses erreurs de prévision du déficit. Et donc, attention à cela. Il faut prendre un peu de temps, d'accord, et regarder si on a bien eu une transformation structurelle de cette élasticité. Est-ce qu'elle est structurellement au-dessus de 1 maintenant? Et là, on pourra dire « Ça y est, on est dans la courbe de l'affaire. » C'est pour ça que je mets un doute et un petit bémol, ne crions pas victoire trop vite, le 0,5.
Éric Philippe, pardonnez-moi,
un peu conjoncturel là-dessus.
Non, mais je vais vous donner une vision d'abord, parce que c'est mon métier un peu de la fiscalité. Donc la notion de 14 tranches d'imposition, c'est pas que la dernière à 90%, hein. Celle-là, elle pourrait influer directement dans un schéma d'affaires. Toutes celles
qui pourrait passer les 100 avec une CSG progressive.
Retour d'ISF.
Et je ne sais pas combien est prévu la 13 et la 12.
Toutes celles qui sont en dessous, et ça fait 22 ans de carrière que je rencontre des particuliers dans mon métier, parce que je fais de l'investissement. Donc en fait, le calcul des impôts, on a vu tout. Hein, on a vu Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron.
Donc, on a vu des approches,
On a vu des approches très très différentes dans ces visions. Il y a eu des réductions des tranches, enfin moins de tranches, donc des tranches plus allongées, des coefficients familiaux qui ont changé. Bon, ce dont on se rencontre, Nicolas, on est quelque part dans la courbe de l'affaire, mais c'est beaucoup plus rapide que ça chez un ménage. Le ménage, à partir du moment où il arrive à sa tranche marginale, parce qu'en France, c'est une tranche marginale par palier, je le rappelle pour nos auditeurs. Donc jusqu'à 11 000 euros, vous payez zéro, entre 11 000 et 24, en gros. Vous commencez.
Vous les connaissez par cœur, les.
Bah, c'est un petit peu mon
petit. Oui.
Il n'y en a que 4.
Hein. Oui.
Moi, aujourd'hui, il n'y en a que 4. Je te remercie de ton soutien, Eric, ça fait plaisir. Quand on arrive à un seuil, en particulier de la tranche de 30, puis ensuite 41, 45, vous avez des gens très clairement, beaucoup de professions libérales, des médecins, des petits chefs d'entreprise, qui se disent quel est l'intérêt à ce moment-là, sur certains investissements, de dépasser ça. Donc, c'est une mini courbe de l'affaire. Là, vous allez mettre 14 tranches, et donc, on sait très bien que les tranches vont être toujours assez favorable jusqu'à 30, et qu'il va y avoir 30, 35, 40, 45, 50, 55. C'est quasi sûr, leur projet. Et là, vous allez avoir pas les grands riches qui vont partir vivre sur le lac Léman. Vous allez avoir tous les entrepreneurs, tous les artisans, toutes les professions libérales qui vont commencer à dire, bah attends, le vendredi après-midi,
Ah mais je m'en souviens, au moment du choc fiscal.
On a des musées magnifiques à Paris ou ailleurs. Je vais aller au musée, pourquoi je dois travailler?
Non, mais moi je me souviens.
C'est pas un problème de gens qui partent à l'étranger.
C'est très concret, mais je me souviens qu'au moment du choc fiscal, fin Fillon, début Hollande, on rencontrait notamment des avocats qui bossaient plus le vendredi.
Oui.
À un moment, c'est plus la peine de. Tu sais que tu te réveilles et que tout ce que tu vas faire dans la journée, ça partira chez.
Pas tout. Mais tu sais que ça devient à ce moment-là à tout, plus cohérent. Oui, ouais. Voilà. Donc c'est
donc il y a de la démagogie quoi. Voilà.
Bah à l'époque des impôts
dans le programme dans ces programmes. Alors moi je disais qu'il y a certains d'autres impôts qu'on peut considérer. Moi par exemple taxe sur hôtel restaurant, on peut considérer que les TVA par exemple, il y a eu des baisses de TVA. Ah, oui. TVA ben peut-être certaines TVA pourraient être augmentées. Bon, il y avait l'IPP avait fait une étude très intéressante en disant que les ultra riches en France peuvent ne payer que l'impôt sur les sociétés parce que ils peuvent se mettre en holding familial. Oui. Et vous savez qu'en France, c'est beaucoup plus facile à faire qu'aux États-Unis. Moi j'ai toujours dit, pourquoi on ne s'aligne pas sur la législation américaine, qui n'est pas un pays bolchevique, comme ça. Hein. Ça permettrait que des gens très très riches payent un peu plus. Il y a différentes choses qu'on peut imaginer, vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne suis pas du tout un dogmatique de la note d'augmentation.
On a quand même absolument pas évoqué la question des dépenses publiques et d'éventuellement les penser autrement. C'est aussi, avant de parler fiscalité...
Absolument, il faut faire les deux. Nicolas, juste avant qu'on passe au sujet d'après...
Oui, j'en ai plein.
L'erreur, parce que tu m'as posé la question, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est cet ISF sur l'outil de travail. Parce que déjà, pour moi, très profondément, le retour de l'ISF serait une idiotie absolue, mais je le dis depuis que j'ai 20 ans.
Mais surtout avec l'outil de travail, même Mitterrand ne l'avait pas fait.
Si tu mets l'outil de travail, ça va au-delà de 4-5 fortunes qui vont aller à Bruxelles ou en Suisse. C'est terminé.
Oui. Plus personne ne va investir. Allez réécouter la séquence de Denis Père en fin de première partie de l'émission, il y a 3 jours, qui a raconté sa propre expérience, où il a dû... pour éviter de se retrouver en faillite personnelle au moment où il devait payer, il a dû quitter la France et se barrer en Belgique. Ouais. Et il a dit, cette histoire d'ISF sur l'outil de travail, c'est le glyphosate de l'économie. Hein,
donc, et Denis Père fait partie des gens qui disent qu'il n'avait pas du tout envie de quitter
son pays. Mais puis
il lui devait tout, son éducation, sa santé. C'est un traumatisme.
Et vous voyez total. D'ailleurs à quel point il le raconte cash.
Ah, bien sûr.
Il ne cache pas.
Et d'ailleurs, qui fait de la politique.
Bon, je ne sais plus où on va là, Eric. 25 milliards à trouver pour boucler 2024. Non mais jamais on a fait ça. Oui. Là, on a sorti le décret à 10, puis on a essayé d'aller un peu plus loin, puis là, maintenant, c'est 5 de plus.
Ouais. Non, ok. Non,
mais et l'IREX Econ nous dit 2025, il faut 60 milliards pour stabiliser la dette.
Oui, mais bon.
Waouh.
Non, mais bon, ok. Non, mais là, maintenant, il faut.
On a 4 minutes 40.
Ok, alors je vais essayer de faire en une minute pour laisser du temps. Donc, globalement, vous voyez, ce qu'on nous demande, on est en procédure pour déficit excessif. Ce qu'on nous demande, c'est de
0,5.
Faire 0,5. Mais 0,5, ça fait combien de milliards, Nicolas ?
De déficit structurel ?
14. D'accord ? Donc pourquoi on te fait 25 ? On nous demande de faire 14. Faisons 14. Déjà 14, ça serait bien. D'accord ? Et alors ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est-à-dire qu'il va falloir 14 cette année, 14 l'année prochaine, 14, ouais, ça va se cumuler. Donc le choc, il va être gigantesque, avec des effets un peu d'entraînement, même si on est un peu moins keynésien qu'avant, il faut quand même répéter qu'il y a quand même des effets d'entraînement, et donc peut-être qu'on n'aura pas...
Sur des montants pareils, vous avez forcément un effet récessif, c'est
obligatoire. Donc du coup, le choc, il est gigantesque, et le problème, c'est qu'on se prive de plein d'instruments, dont Philippe en a parlé, c'est-à-dire se dire, il y a un choc gigantesque devant nous, d'accord, mais... Bien sûr, on le fait pas par les impôts. Donc toute la partie fiscalité, on va pas le faire. Même on va continuer un peu à les baisser avec les impôts à la production, etc. Ok, donc on les baisse. Et sur les dépenses, on va quand même sanctuariser un certain nombre de dépenses parce que d'abord les minima sociaux, faut pas trop toucher les pauvres. On va sanctuariser l'éducation, on va sanctuariser l'environnement. Donc on se dit et donc du coup, il y a un choc énorme mais qui va reporter sur un ou deux instruments et donc sur quelques pourcentages de la population, c'est pas possible. Vous voyez, il y a un moment, il va falloir qu'on choisisse. Soit le choc, on dit non, il est trop violent, on le fait pas. Ouais. Soit on dit, il faut que tout le monde s'y mette et qu'on le répartisse sur tout le monde. Voilà, sinon, ça va pas être accepté. Donc il va falloir qu'on sorte un peu de cela et au lieu de dire, c'est pas 14, ça va être 25. Mais il y a pas d'instrument. Déjà 14, on sait pas. Donc là, maintenant, il va falloir qu'il clarifie.
Alors par exemple, moi j'avais des idées là-dessus. Guillaume, moi je disais tout à l'heure, par exemple, la TVA sur hôtel-restaurant. C'est un truc qu'on a dit. Peut-être année blanche, indexation incomplète des retraites élevées, par exemple. J'en sais rien si c'est une piste. Il y a d'autres niches fiscales auxquelles qu'on peut regarder. Je veux dire, en tout cas, il y a également transfert aux collectivités territoriales. Il faut regarder les transferts, où on les fait, comment on les fait. Il faut mettre à plat un certain nombre de dépenses. Je ne dis pas qu'il faut c'est ça, pas ça. Mais l'idée, c'est que tout le monde doit contribuer. On ne peut pas dire que c'est juste les chômeurs qui vont contribuer. Moi, ce que je trouvais très injuste avec la deuxième assurance chômage, c'est qu'on disait, on avait mis en même temps hop, assurance chômage, on va changer assurance chômage. Là, je trouve que c'est très injuste. Il faut dire tout le monde doit contribuer. Et donc, je crois que les sacrifices, moi, je crois qu'un des messages de cette élection, c'est que d'abord, une demande de plus de démocratie et une demande de sacrifices mieux partagés. Les gens sont prêts à faire des sacrifices si on peut montrer qu'effectivement, comme le dit très bien, ils sont partagés. Et tout le monde doit contribuer. On peut pas dire, non, les retraités, c'est notre clientèle, on n'y touche pas. Non, les restaurateurs, je ne peux pas être en mauvais terme avec eux. Les chômeurs, ni bloquent, et ceux qui bloquent le pays non plus. Donc, c'est ni ma clientèle, ni ceux qui bloquent le pays. Donc, je vais taper sur ceux qui sont ni ma clientèle et qui bloquent pas le pays, quoi. Ça, tu peux plus faire de la politique comme ça. Tu dois dire, tout le monde doit contribuer. Alors, il y avait eu l'idée d'année blanche ou d'année blanche partielle pendant un an. Mais en tout cas, dans l'année blanche, j'ai beaucoup de choses qu'on, je suis pas d'accord, mais il y a quand même l'idée, tout le monde contribue dans une année blanche. Année blanche indexée, tu vois.
Je sais plus qu'il avait sorti,
Mais en tout cas, l'idée que tout le monde doit contribuer. Ça, je crois que c'est très important. Et on peut arriver à 15 milliards.
Bon.
Une année blanche indexée, tu arrives facilement à 15.
Sandrine Rousseau, elle dit que les retraités, les épargnants sont une partie de la solution. D'accord. Elle le dit avec un ton un petit peu Corée du Nord, mais elle le dit.
Je me demandais s'il allait me la garder jusqu'à la fin, Sandrine Rousseau, sur les épargnants.
Non, mais en 1 minute 20, parce qu'on
non,
a
fini. Ça va être beaucoup plus vite. D'abord, tout ça est complètement aberrant, mais vous savez qu'il existe en France des mécanismes avec la loi Sapin 2.
Aberrant, mais pas.
Il existe en France.
Je crois bien que Raymond Barré fait un emprunt obligatoire. Hein.
Je réponds deux fois. Il y a le dispositif Sapin 2, qui permet, en cas de risque de marché, de pouvoir faire jouer des mécanismes qui pourraient récupérer directement dans les contrats d'assurance-vie une partie. Ou alors l'autre solution qui est avancée par beaucoup de gens, ce que tu disais, c'est de créer un emprunt d'État qui, dans l'absolu, presque par décret, nous obligerait tous à devenir prêteurs de l'État français. Ce que nous sommes déjà. Mais alors jusque-là,
c'est ce qu'en
fait, 1300 milliards des assurances-vie sont sur des fonds euros à 90% en OAT.
C'est ce qui m'a dérangé chez Sandrine Rousseau, parce qu'elle a quand même un bagage en économie. Elle dit qu'il faut que l'épargne des Français aille vers le financement de la dette. J'avais envie de lui dire c'est déjà le cas.
C'est déjà le cas, c'est énorme.
C'est quand même bon.
Et pourquoi l'imposer pour l'instant? Encore une fois, les OAT, mais tu sais mieux que nous, on lève à des taux extrêmement faibles. Donc il n'y a pas de problème. C'est peut-être le jour où vraiment on n'y arrivera pas, et ben on fera appel à un grand emprunt, mais ça va nous coûter plus cher.
Japonaise, quoi.
Eh bien, merci. Philippe Aguillon, Éric Heyer, Stéphane Van Uffel. Quoi donc ?
Eh bien, merci.
Alors voilà. Une belle semaine qui s'achève. Je crois qu'on a réussi à parler d'impôts tous les jours, hein, quand même. On n'a pas forcément parlé baisse de dépenses publiques tous les jours, mais impôts. Malheureusement, je crains que, oui, effectivement, l'histoire s'écrive un petit peu comme ça. C'était Jean-Marie Vittori, qui est quand même pas un sado fiscaliste, qui est le premier à avoir dit ici, vous n'échapperez pas, quoi qu'il arrive, à une solution fiscale parmi la panoplie.
Ah bah sinon, c'est les agences de notation qu'on a...
Des gens sont tombés dessus, tu sais, même Gilbert Oudot...
Et on n'a pas parlé de la transition écologique.
Non,
je coupe là, c'est fini. 9h lundi, au revoir.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.